Laudetur Jesus Christus.
Aucune accalmie aux États-Unis suite à la mort de George Floyd. Le centre de Manhattan à New York a été le théâtre de scènes de pillage. Un couvre-feu a été instauré dans la ville. Le président américain Donald Trump a annoncé le déploiement de milliers de militaires à Washington. On fait le point juste après les titres. Nous reviendrons ensuite sur les menaces qui pèsent sur les populations d'Amazonie, particulièrement menacées par la pandémie de Covid-19. Au Brésil, sur les quelques 300 peuples autochtones recensés dans le pays, 78 ont déjà été touchés. Au sommaire également, la recrudescence du virus Ebola en République démocratique du Congo. Kinshasa a déclaré hier une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique sur son sol, dans le nord-ouest du pays. Éclairage dans quelques instants. Et puis nous nous rendrons au Pérou, qui n'est pas épargné par la pandémie de coronavirus. Le pays enregistre désormais 170 000 cas. Le système de santé, déjà fragile avant la crise, est désormais saturé. L'économie du pays paralysé. Témoignage du père Boulanger en mission au Pérou depuis 26 ans à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour. Le déferlement de colère des manifestants franchit un cap aux États-Unis. Donald Trump promet des milliers de soldats armés dans les rues. Le président américain, qui s'est exprimé de manière très ferme hier depuis la Maison-Blanche, appelle à mettre fin aux émeutes et aux pillages, Delphine Allaire.
Oui, Hélène, la méthode forte est employée par les autorités face au climat insurrectionnel qui règne dans le pays. Depuis les jardins de la Maison-Blanche hier soir, Donald Trump a donc promis de restaurer l'ordre, annonçant un déploiement de l'armée. Pour y parvenir, les troubles sont une honte. J'appelle les gouverneurs à agir vite et fort. Le président américain évoque des actes de terrorisme intérieur pour qualifier ces violents débordements qui ont lieu depuis plusieurs jours dans les manifestations de soutien à George Floyd, devenu emblème d'une lutte contre les violences policières, le racisme et les inégalités sociales. Des protestations qui dégénèrent donc parfois en émeutes, pillages de grands magasins et destructions. Une quarantaine de villes ont mobilisé la garde nationale, imposé des couvre-feux comme New York, où il est en vigueur de 23h à 5h du matin. À Washington, les violations de couvre-feu entraînent arrestations et dispersions. Démonstration symbolique s'il en est. À la fin de son allocution, Donald Trump s'est rendu devant l'église Saint-John à quelques mètres de la Maison-Blanche, église partiellement incendiée dimanche soir par des manifestants radicalisés.
Merci Delphine Allaire. Et l'on en sait un peu plus sur les circonstances du décès de George Floyd. Selon le médecin légiste en charge de son autopsie, cet Afro-Américain de 46 ans est mort par arrêt cardiaque et pulmonaire à cause de la pression exercée sur son cou par la police. Des traces de fentanyl, un puissant opiacé, ont par ailleurs été relevées. Ces obsèques auront lieu mardi prochain à Houston, au Texas. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a accusé Donald Trump d'utiliser l'armée contre les Américains et du gaz lacrymogène contre des manifestants pacifiques pour une opération de communication. Il doit s'exprimer dans la matinée depuis Philadelphie sur ces troubles qui secouent les États-Unis. La pandémie de coronavirus a fait hier aux États-Unis 743 nouveaux décès, soit plus de 105 000 morts depuis le début de la pandémie. Le Mexique est également durement frappé par la maladie. Le pays enregistre 10 000 morts pour 94 000 cas confirmés. C'est le deuxième pays d'Amérique latine le plus endeuillé après le Brésil, qui recense près de 30 000 décès. Parmi les victimes, les peuples d'Amazonie, particulièrement vulnérables. La correspondance de Jean-Mathieu Albertini.
Les Cocama habitent tout à l'ouest de l'Amazonie et c'est le peuple le plus touché par la Covid-19 avec 54 victimes. C'est plus que le total des victimes autochtones recensées dans tout le pays par le gouvernement. Les chiffres officiels font état de 51 décès seulement quand la PIB, l'Association des peuples indigènes du Brésil, en compte 178. La PIB accuse l'État de ne pas comptabiliser les autochtones qui habitent ou qui viennent se faire soigner dans les villes. C'est une bataille de chiffres importante, notamment pour pousser l'État fédéral à débloquer plus de ressources pour lutter contre une pandémie qui s'aggrave. Sur les plus de 300 peuples autochtones recensés au Brésil, 78 ont déjà été touchés, y compris dans des coins très reculés. Or, sans accès à des soins rapides, la pandémie fait des ravages dans ces petits villages où le mode de vie communautaire favorise sa propagation. Face à l'absence d'action du gouvernement, beaucoup de peuples autochtones se sont donc organisés pour se mettre en quarantaine et interdire l'accès à leur territoire. Mais alors que la Covid-19 accapare l'attention, des criminels en profitent pour multiplier les invasions sur leurs terres, favorisant ainsi de nouvelles contaminations. Jean-Mathieu Albertini à Rio de Janeiro pour Radio Vatican.
Dimanche dernier, au terme du Regina Coeli, le pape François a demandé à la Vierge Marie, mère de l'Amazonie, d'intercéder pour les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables de cette chère région, mais aussi pour ceux qui, dans le monde entier, sont privés de soins de santé. Il s'exprimait 7 mois après la fin du synode sur l'Amazonie. Si la pandémie continue de s'étendre sur le continent américain, elle semble marquer le pas en Europe où de nombreux pays ont débuté une nouvelle phase de déconfinement. À Rome, les musées du Vatican et les villas pontificales de Castel Gandolfo ont ainsi rouvert leurs portes hier, tout comme le Colisée. En Turquie, c'est le grand bazar d'Istanbul, l'un des plus vieux marchés couverts au monde, qui a rouvert ses portes ce lundi. Ses quelques 3000 boutiques, fragilisées par plus de 2 mois d'inactivité, attendent avec impatience les clients dans des conditions d'hygiène strictes. Mais les touristes étrangers qui font vivre le bazar risquent de ne pas être au rendez-vous cette année. À Istanbul, Anand Lower.
Les volets roulants grincent un peu. Cela faisait 2 mois et demi qu'ils n'avaient pas servi. En ce matin de réouverture, c'est le grand nettoyage au grand bazar d'Istanbul. On astique les vitrines des bijouteries, on aspire la poussière accumulée sur les tapis. Et puis il y a les nouveaux gestes. Prise de température à l'entrée, port du masque obligatoire, spray désinfectant à tout va. Joshkun Güler, orfèvre et fils d'orfèvre au grand bazar, a le sentiment de vivre un moment inédit de l'histoire de ce marché couvert construit au XVe siècle.
Je le raconterai à mes petits-enfants. Ça aura été une grande leçon. D'un point de vue sanitaire, ça nous a rappelé à tous à quel point l'hygiène était importante. D'un point de vue économique, avec la perte de revenus que nous avons subie, cette crise nous a aussi rappelé la valeur de notre travail.
La plupart des 3000 boutiques ont rouvert, mais il manque l'essentiel pour animer le vieux bazar, les touristes étrangers. Les vols internationaux ne reprendront pas au mieux avant mi-juin. Hachim Güleri, vice-président de l'association des commerçants du Grand Bazar et vendeur de tapis, déplore déjà une année perdue.
Les mois passés ont été difficiles. 60% des commerçants du bazar sont locataires de leur boutique. Ils ont continué de payer leur loyer alors qu'ils n'ont rien gagné pendant 2 mois et demi. Normalement, le Grand Bazar est un endroit assez imperméable aux difficultés économiques de la Turquie, aux crises, du moment que les touristes viennent.
Les commerçants sont d'ailleurs conscients qu'une affluence de clients serait un risque. 7 de leurs collègues ont succombé au Covid-19. À Istanbul, un joueur pour Radio Vatican.
Ankara accusée par Athènes de nouvelles provocations. La publication au journal officiel turc de demande d'autorisation de la société de pétrole turc d'effectuer des explorations pétrolières dans la région du plateau continental grec a suscité l'ire de la Grèce. Hier soir, Athènes a procédé à une démarche diplomatique auprès de l'ambassadeur de la Turquie en Grèce qui a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Direction à présent la République démocratique du Congo qui fait face à un nouveau foyer d'Ebola. Les autorités ont officiellement déclaré hier une 11e épidémie de fièvre hémorragique sur son sol. C'est le nord-ouest du pays qui est touché, alors que le virus sévit déjà à l'est. Les explications de Pascal Moulégois.
Ebola avait disparu de cette province depuis juillet 2018, avant de réapparaître cette fois dans sa capitale Mbandaka. L'inquiétude des autorités sanitaires est grande, car déjà 4 personnes sont décédées et tous leurs contacts n'ont pas encore été retrouvés. Les 4 victimes étaient en contact et vivaient dans les mêmes quartiers selon Eteni Longondo, le ministre de la Santé. Ce n'est pas la première épidémie dans la province de l'Équateur. Entre mai et juillet 2018, 33 habitants sont décédés avant que la maladie ne soit endiguée de la zone. Aujourd'hui, elle n'est pas la seule touchée par Ebola, car à l'autre bout du pays, dans la province du Nord Kivu, la 10e épidémie est toujours en cours. Près de 2300 personnes sont décédées depuis août 2018. Le 12 avril dernier, les autorités congolaises s'apprêtaient à déclarer la fin de cette épidémie avant qu'un nouveau cas ne refasse surface à Beni dans le nord de la province. Un compte à rebours a été lancé et cela fait 34 jours sans l'apparition d'un nouveau cas. Et pratiquement dans une semaine, les autorités devraient déclarer la fin de la 10e épidémie. Pascal Moulégoua, Kinshasa, Radio Vatican.
Kinshasa a sollicité l'appui de l'Organisation mondiale de la santé. Son directeur a assuré que ses équipes étaient à Mandaka pour soutenir la riposte face à la nouvelle épidémie d'Ebola.
La désinformation, comme le coronavirus, se propage. Pour combattre la désinformation, il est important de partager des informations venant de sources fiables, comme les autorités sanitaires et l'Organisation mondiale de la santé. Pendant l'épidémie de Covid-19, ne faites confiance qu'aux sources d'informations officielles et aux médias crédibles. Ne partagez pas d'informations non vérifiées. Ceci est un message de l'UNESCO.
Direction dans notre dossier le Pérou, deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par le coronavirus en nombre de contaminations. Il enregistre désormais 170 000 cas et plus de 4 600 décès. Le système de santé, déjà fragile avant la crise sanitaire, est désormais saturé et l'économie du pays paralysée. Un paradoxe si l'on observe les moyens déployés par le gouvernement de Martín Vizcarra pour contenir l'épidémie. Un confinement national décrété en mars et prolongé jusqu'au 30 juin, le couvre-feu instauré chaque fin de semaine, la fermeture des frontières. Les prémices d'une crise alimentaire sont toutefois déjà visibles. Prêtre Fidei Donum, originaire du diocèse d'Amiens, le père Hubert Boulanger est en mission au Pérou depuis 26 ans. Il a désormais la charge de vicaire général de la prélature de Chuquibamba au sud-ouest du pays. Il témoigne de cette expansion dramatique du coronavirus et de ses conséquences.
Le virus s'est propagé beaucoup plus dans les villes de la côte et plutôt vers le nord du pays et surtout aussi dans la forêt amazonienne. Alors là, dans la forêt amazonienne, c'est l'hécatombe. Dans la région où je suis, on est un petit peu plus protégé. Mais notre grand problème, c'est qu'il y a surtout un délabrement de la situation sanitaire. Alors, le gouvernement a fait un confinement strict, et en même temps a pris quelques petites mesures sociales aidant aux familles les plus pauvres. Mais vous savez, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Hein. Les gens sont absolument sans rien actuellement. Alors, de notre côté, l'Église a été extrêmement touchée de ne pas pouvoir ni même ouvrir nos églises. Hein. On a mis en place tout un système de liturgie par Facebook et tout ce machin-là, quoi. Enfin, ça n'apporte pas aux personnes le réconfort dont ils ont besoin, hein, c'est évident.
Quelles autres actions propose l'Église ?
Principalement, l'Église intervient avec la Caritas, hein, qui a été très surprise, bien sûr, pas forcément organisée, mais qui a répondu pas mal, mais avec peu de subsides. Mais je remarque aussi que tous les curés de paroisse, ils ont aussi fait des donations en direct, en porte-à-porte, parce que les gens n'ont pas le droit de sortir. Donc ça limite beaucoup la qualité de la donation, parce qu'on donne un petit sac de riz, un sac de sucre, des choses comme ça. Alors que si on organisait une casserole commune, comme on dit ici, hein, une espèce de réfectoire populaire, ça coûterait moins cher et il y aurait de la socialisation. Mais ça, c'est pas possible dans le contexte actuel de la pandémie. Hein. Alors donc l'Église se mobilise pas mal avec peu de ressources, hein, pour les secteurs les plus pauvres.
Et que pensez-vous de l'action du gouvernement qui a notamment débloqué 26 milliards de dollars pour aider la population ?
On ne peut pas ne pas reconnaître que le gouvernement a fait un effort extraordinaire. Alors le Pérou est certainement de toute la région le pays qui a sorti le plus d'argent en direct pour aider les personnes les plus pauvres. Alors là, il y a plusieurs petits problèmes. Et un premier problème, c'est d'identifier justement ces pauvres, parce qu'on n'a pas une liste des pauvres du quartier, quoi. Hein. La deuxième chose, c'est aussi les municipalités, pas du tout habituées à ce genre d'activité. Ils ont déjà du mal à nettoyer les rues et à ramasser les ordures. Alors, si vous voulez, quand on leur demande de faire la répartition de vivres dans une catégorie sociale qu'ils ignorent, alors là, ils sont complètement dépassés. Autre lieu de corruption. Les élus sont généralement au Pérou, ils n'ont pas été élus pour leur capacité de gestion, mais plutôt pour leur capacité de séduction. Vous comprendrez très bien que ces élus-là, une fois qu'on leur présente de l'argent, même si ce n'est pas pour eux, ils le mettent dans leur poche assez vite. Alors ça, c'est un problème très, 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 très important. Le gouvernement actuel, avec l'argent qui est disponible, il essaye de faire un programme social qui est intéressant.
Que représente pour vous cette épreuve dans votre long parcours de prêtre ?
Ah, bah écoutez, moi j'ai tout eu, hein. J'ai eu le terrorisme, hein. J'ai eu les tremblements de terre, j'ai eu le choléra, autre tremblement de terre et puis tsunami, etc. Alors j'avais pas vécu de pandémie, hein. Ça c'est vraiment la première fois. Alors personnellement, je trouve intéressant pour un prêtre et pour tout chrétien de se situer face à une obligation de rester chez soi, et de s'inspirer un petit peu de nos frères et sœurs qui sont moines et moniales dans les cloîtres. Hein. Quand on a plus de 40 ans d'ordination sacerdotale, ça fait pas de mal d'avoir un peu de temps de contemplation de l'œuvre de Dieu.
Voilà, c'était le père Boulanger en mission au Pérou depuis 26 ans. Interrogé par Adélaïde Patrignani, il était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. On se retrouve à 13h. Très belle matinée. Au revoir.